en ce temps-là à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je ne te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Jésus ajoutait « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Nous enfilons dimanche après dimanche en ce moment les exemples donnés par Jésus. Vous vous souvenez, dimanche dernier, c'était l'insistance dans la prière avec cette veuve qui venait trouver le juge en lui disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Et Jésus voulait souligner l'insistance dans notre prière avec, vous vous souvenez aussi, Moïse et Aaron qui s'étaient rendus sur la montagne, les mains levées pour intercéder. Nous avions parlé de l'intercession dimanche dernier. Puis aujourd'hui, on continue sur la même veine de la prière, mais cette fois-ci avec une autre perspective qui est celle de l'humilité, de la prière humble. Et j'aime bien, en lisant cette parabole plusieurs fois, on tombe sur des détails extrêmement incarnés dans la vie. Regardez comment le pharisien se tient. Jésus nous dit qu'il est debout. Voilà. Il s'est mis debout, admettons qu'il soit monté ici devant l'autel. Il est en haut de la nef, il est dans le temple, il est debout devant tout le monde. Jésus ajoute qu'il priait en lui-même. Il priait en lui-même. Il n'extériorisait pas sa prière, mais il priait en lui-même. Puis ça, façon de parler qui montre que quelque part il y a un peu au fond un petit nombril qui se chatouille, et cet homme-là était en train de s'auto-glorifier. Il priait ainsi en lui-même: mon Dieu, je te rends grâce. Il a raison, le cœur de la prière c'est bien de remercier. Mon Dieu, je te remercie. Mais malheureusement la suite est désastreuse. Il dit: je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres, je suis beaucoup mieux que les autres, infiniment mieux que les autres. Moi, je jeûne deux fois par semaine, moi je vais me confesser, moi je fais ceci, pardon, moi je fais ceci et cela, moi je donne 10% de mes biens à la quête, moi je suis quelqu'un qui a tout compris, j'ai tout fait bien. Et en insistant ainsi, Jésus souligne en plus qu'il méprisait le publicain qui était derrière, dont Jésus nous dit, lui, il se tenait à distance. Le premier était debout et sa prière monte vers Dieu ostensiblement, puis retombe sur lui-même d'ailleurs, parce que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et le publicain, lui, se tient à distance, se frappe la poitrine, quelque chose qu'on a oublié, moi y compris d'ailleurs, hein, quand on prie, je confesse à Dieu. On fait plus ça. Je me souviens d'une messe avec des scouts comme ça, où c'était les premiers micro-cravates de ce genre-là. Mais la petite boîte, au lieu d'être dans la poche, elle était ici. Alors le prêtre a tapé la boîte comme ça trois fois. Ça faisait un bruit absolument monumental. Au moins, on savait qu'il s'était frappé la poitrine. Mais c'est plein de gestes. Il se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Ce qui, dans la Bible, est une façon de montrer sa communion avec Dieu. Le Jeudi Saint, on nous dit que Jésus leva les yeux au ciel, rompit le pain, et voilà. De même, quand il fait sa dernière prière, le jeudi saint, c'est les yeux levés au ciel. C'est une façon de parler, sans doute à partir de la réalité, pour montrer la communion avec Dieu. Mais il n'ose pas lever les yeux vers le ciel. Il ne se sent pas en communion avec Dieu. Et il dit, il fait une prière en disant, extérieurement. Donc il n'a pas peur de s'accuser devant tout le monde. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il n'a rien à présenter dans ses mains qui soient des œuvres de sanctification, d'ascèse, on dirait peut-être aussi en cette fin d'année de la miséricorde, des œuvres de miséricorde. Le pape François est en train, dans les derniers mercredis, lors des audiences, de faire des catéchèses sur les œuvres de miséricorde. Il n'a rien à apporter, il sait qu'il n'est pas net, et pourtant, Jésus nous dit que c'est lui qui a la véritable attitude pour prier. C'est lui qui sait bien prier. En ce sens que il, comme diraient les moines orientaux, il fait sa métanie. Métanoïa, vous savez, la conversion. La métanie, c'est une façon de se courber, de se relever, comme les moines font, aux gloires au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il sait se courber devant Dieu, il sait se reconnaître pécheur devant Dieu, ce que le pharisien ne sait pas faire. Le pharisien s'auto-glorifie dans sa tête. C'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un de bien, il est parvenu, il est arrivé, c'est un arriviste au fond devant Dieu. Tandis que ce publicain est un homme qui, dont la prière est rampante, ne sait pas très bien faire, mais il fait ce qu'il peut. Et puis dans son cœur, il a vraiment le désir d'établir une communion avec Dieu. Montre-toi favorable, c'est la traduction, la nouvelle traduction liturgique, l'ancienne c'était « aie pitié de moi ». Il suis pécheur, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Il a vraiment le désir, non pas d'amadouer Dieu, mais de rentrer en communion avec lui. Et Jésus dit que, voilà, qui s'abaisse sera élevé. Voilà, je crois qu'il faut simplement méditer ça, le lire, relire, et puis voir que les deux coexistent en nous aussi, bien sûr. Bien sûr, on est tantôt le pharisien, tantôt le publicain, généralement le publicain quand ça va de travers, et le pharisien quand ça va bien. Mais Jésus nous invite à vérifier s'il n'y a pas un levain d'orgueil qui fait monter la pâte, de sorte que nous restions dans l'humilité. Je suis en train de lire le livre du pape Benoît XVI, le dernier livre qui s'appelle « Derniers entretiens », je crois. Et alors... Il dit des choses assez intéressantes. Comme disent les journalistes, il se lâche. Quand il parle de son habilitation à enseigner en université, il avait passé son doctorat, mais il fallait qu'il passe encore un autre examen, en quelque sorte, devant des professeurs. Et il dit qu'il avait déposé un sujet, et puis on lui a dit non, puisque vous voulez être professeur de théologie dogmatique, il faut prendre un sujet qui est dans ce créneau-là. Donc en quelques jours, il a dû préparer un exposé lui permettant d'être habilité à enseigner dans, je crois que c'était à Bonn, à l'université où il avait été nommé. Et là, il a dit qu'il a été pris de sueur froide et qu'il a vraiment eu peur et que au moment de son exposé, il était vraiment pas très bien finalement. Et ensuite, il a dû vivre une attente interminable dans les couloirs avant d'avoir le résultat qui a été positif, mais il savait très bien que dans le jury, il y avait quelqu'un qui lui était farouchement opposé. Et alors, il réfléchit là-dessus, et le journaliste, évidemment, le titille en lui disant « Mais voilà, enfin, qu'est-ce que ça a produit en vous ?» Et il dit « Au fond, il est bon, quelquefois, de recevoir des humiliations. » De recevoir des humiliations... parce que ça nous garde dans l'humilité. Et alors le journaliste de lui dire, mais alors vous étiez en train d'enfler, de vous gonfler vous-même, déjà à cette époque-là, le succès vous montait à la tête. Il dit non, pas du tout, mais il dit, mais ça m'a servi quand même, parce que les humiliations sont toujours bonnes à prendre pour rester vraiment dans l'humilité. Alors peut-être on peut faire la lecture dans nos vies aussi, de certains moments où nous avons vécu des humiliations, Nous avons mal vécu, évidemment, à chaque fois, parce qu'on regimbe devant ce type de choses, et on le vit très mal, on est très courroucé, et on le fait savoir. Et pourtant, il y a une pédagogie de Dieu pour nous maintenir dans l'humilité, afin de nous éviter de dériver, sans même nous en apercevoir, parce que là, nous nous en apercevons pas, lorsque nous dérivons dans l'orgueil. Ça marche tout seul, la voile se gonfle et nous avançons très bien sans nous en apercevoir dans une fausse direction, tandis que l'humiliation nous abaisse et nous fait mal, et là nous nous en apercevons. Mais c'est la pédagogie divine à certains moments. Voilà, j'aurais souhaité aussi pouvoir parler de la seconde lecture où Paul est en prison et va bientôt mourir martyr à Rome. Il est à Rome, en prison, et il sait qu'il a fini. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et il vit cela effectivement, non pas comme un orgueil, mais humblement, en disant « j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire, finalement, et je sais qu'il me sauvera éternellement. » Le publicain, Paul, Ben Sirac le sage aussi, en 180 avant Jésus-Christ, qui rédige son livre de sagesse, disant « la supplication du juste » du pauvre, la supplication du pauvre, de celui dont le service est agréable à Dieu, traversera les nuées. La prière du pauvre traverse les nuées. Ce sont trois exemples qui nous sont donnés, trois exemples d'humilité, de prière d'humilité.